Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. L'exercice, d'habitude, j'ai tendance à commencer en disant « Oh là là, c'est très compliqué, ce que je vais faire ce soir ?» C'est certainement pas très simple, ce qu'on va faire maintenant, mais en tout cas, c'est extrêmement bien heureux pour moi. Parce que, loin d'être un exercice strictement, et je le dis sans aucune espèce de... sans démagogie aucune, mais loin d'être un exercice strictement promotionnel lié à la sortie d'un livre, on va parler plutôt de quelqu'un qu'on a lu, qu'on a, je pense, tous plus ou moins lu. Et quand je dis plus ou moins, c'est parfois un livre seulement qui a permis la redécouverte, et parfois de ce livre-là, l'œuvre entière ou quasiment, je veux dire Irène Némirovski. Et on va parler de la façon dont cet auteur, bien oublié pendant longtemps, enfin c'est peut-être un peu indélicat de ma part, mais quand même assez oublié pendant longtemps, même si elle demeurait disponible en librairie, en tout cas pour un certain nombre de titres, a ressurgi de façon extrêmement forte, 60 ans après sa mort, avec la publication d'un inédit qui a été un événement bien sûr français, mais également mondial. On y reviendra. Je veux dire, Suite française, roman inédit d'Irène Némirovski, qui a permis la redécouverte d'Irène Némirovski et donc de son œuvre dans la globalité. Et je suis particulièrement heureux d'avoir à mes côtés la personne qui est... là aussi, ce n'est pas une flatterie, c'est presque une constatation. La personne qui est la plus à même de nous parler, ou de parler avec nous, en tout cas, d'Irène Némirovski, Olivier Philippona. D'abord, parce qu'il y a quand même une actualité éditoriale, Olivier Philippona vient de présider à l'édition des œuvres complètes d'Irène Némirovski en livre de poche, mais il faut avoir une très grosse poche hein, quand même, pour y glisser les œuvres complètes d'Irène Némirovski. Donc c'est dans la collection Pochothèque, très bonne collection d'ailleurs. C'est en deux volumes, sous emboîtage, carton, enfin tout ça est extrêmement élégant et extrêmement... comme on va rentrer dans la saison où on va pouvoir enfin lire des livres qui sont sortis depuis un petit peu plus de 3 jours pour ce qui me concerne et quelques semaines pour vous, je pense que voilà une excellente lecture de plage. Et je suis sûr qu'Irène Némirovski serait d'accord avec moi parce que la plage, elle l'a fréquentée autant qu'elle a pu sa vie durant. Les œuvres complètes d'Irène Némirovski sont enfin disponibles en un seul endroit, parce que c'était un peu éparpillé partout. On va y revenir. Et puis Olivier Philippona a publié la première, l'unique, à mon sens, peut-être pas l'unique, mais enfin la référence absolue, en collaboration, il faut le dire, avec,
avec Patrick Hénard.
Patrick Hénard, je cherchais le prénom. Biographie d'Irène Némirovski, c'était en coédition de Noël Grasset, non ?
C'était les éditions Grasset, qui était l'éditeur historique de Némirovski, et de Noël, qui est l'éditeur de ses œuvres posthumes.
Absolument. Alors, vous êtes, en plus, vous venez de m'apprendre que la fille d'Irène Némirovski, à qui je voudrais rendre un hommage avant toute chose, mais je suis sûr qu'on va en reparler dans le courant de cette discussion, Denise Epstein, qui a permis, vous savez, la redécouverte, dans des circonstances que peut-être on rappellera, parce qu'elles sont à la fois émouvantes et presque drôles, de l'œuvre de sa mère, et via l'édition de cet inédit Suite française. Denise Epstein nous a quittés il y a quelques mois, ou peut-être...
En avril 2013.
2013, c'est ça, il y a un petit peu plus d'un an. J'avais eu le plaisir de la rencontrer, c'était ici, quand elle avait présenté Suite française à la librairie Mola, et ensuite nous avions passé la soirée ensemble. J'ai été amené à écrire quelques pages par la suite sur l'œuvre de sa mère, et à chaque fois j'avais trouvé en elle une interlocutrice extrêmement attentive, extrêmement bienveillante, extrêmement généreuse, tout à la fois rigoureuse, ne me passant rien avec gentillesse et le sourire. Donc voilà quelqu'un qui est parti en ayant très, très largement et bien fait son boulot, il fallait le dire, et il faut lui rendre cet hommage-là.
Et elle-même a très, très bien raconté son histoire, c'est-à-dire son histoire de petite fille jusqu'à la déportation de sa maman quand elle avait 13 ans, et sa vie ultérieure qui a été une vie militante, une vie compliquée, une vie d'enfant caché d'abord, de 42 à 44, et puis une vie je le dis en souriant, de star internationale, parce qu'elle, ouais, a fait le tour du monde avec Suite Française pendant les 10 dernières années de sa vie. Alors cette vie, elle l'a racontée dans un livre, je vous le conseille pendant que j'y pense, ça s'appelle Survivre et vivre. C'est un livre d'entretien paru aux éditions de Noël et qui est magnifique. C'est le témoignage de la fille d'Irène Mirovski, pas seulement sur sa mère, mais sur toute sa vie, qui est vraiment qui est aussi une vie de grande valeur.
Entretien, je crois, avec Clémence Boulouk.
Avec Clémence Boulouk, voilà. Tout à fait.
Donc, il y a 10 ans, moi, je me souviens, j'étais déjà lecteur, je vous rassure, je me souviens, dans mon adolescence, il y avait guère de trouvable d'Irène Némirovski que quelques titres en cahier rouge grassé. Il y avait déjà David Golder.
Il y avait l'œuvre d'Irène Némirovski, c'est 15 romans, c'est, oui, une cinquantaine de nouvelles. Et après-guerre, quelques romans posthumes paraissent, mais il faut bien le dire, sans presque aucun écho. Et son œuvre était oubliée, à l'exception du Bal et de David Golder,
qui, voilà, c'est ça,
toujours étaient disponibles, qui ont connu un petit regain d'intérêt dans les années 80 au Cahier Rouge.
Voilà, c'est ça. Oui. Mais vraiment, un quart d'heure de gloire, quoi, comme on dit. Et puis, paraît donc en 2004, si je ne me
trompe pas de sottise, oui, en septembre 2004.
Paraît cet inédit qu'on a peut-être tous lu ou beaucoup lu, Suite Française. Alors, je vais lancer le débat comme ça, en remerciant bien sûr Olivier Philippona d'être venu nous parler ce soir d'Irène Némirovski. Et en précisant, parce que j'avais commencé à le dire, qu'il est désormais détenteur, à la demande de Denis Epstein, du droit moral de l'œuvre d'Irène Némirovski, ce qui en fait d'autant plus un interlocuteur parmi les interlocuteurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'heureux, bien entendu, mais en même temps de gigantesque malentendu qui entoure la publication et la lecture, surtout, de Suite Française. Quand Suite Française est parue, la presse mondiale, mais vraiment mondiale, s'en est fait l'écho. Je crois que c'est un des livres français qui a été le plus vendu, notamment dans le monde anglo-saxon, ces 40 dernières années. C'est un très grand succès aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Quand Suite Française est parue, la presse mondiale est beaucoup revenue sur, et c'est normal, sur l'histoire de son auteur, d'Irène Némirovski, et on a fait un livre sur la déportation, sur la Shoah. Ce qu'à mon sens n'est pas
du tout
Suite Française, qui est beaucoup plus un livre sur la débâcle, l'exode, etc. Est-ce que vous êtes d'accord, enfin, ou est-ce que c'est une vision un peu biaisée
Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste commencer par une toute petite précision. Vous avez dit que j'étais le spécialiste de Némirovski. Je suis devenu, franchement, à mon corps défendant, mais je dois reconnaître que c'est un peu vrai. Ça n'est plus tout à fait vrai, parce que l'un des effets heureux de l'apparition de Suite Française et de la redécouverte de toute son œuvre, qui est maintenant disponible, ça a été aussi de relancer les études universitaires, les travaux d'étudiants, etc., sur l'œuvre d'Irène Némirovski, qui sont innombrables. Et aujourd'hui, il y a aux États-Unis, il y a en Italie, il y a en France, des universitaires, des étudiants qui ne travaillent que sur son œuvre. Donc des spécialistes, il y en a aujourd'hui beaucoup. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire.
Alors, disons spécialistes lisibles, alors, si vous voulez.
On va pas épiloguer. Alors, le malentendu de Suite Française, oui, ça, c'est vrai que je l'ai observé, ça a gêné un petit peu la lecture. Il y a plusieurs malentendus, d'ailleurs. Suite Française, il faut le dire et le redire, moi je ne cesse de redire que c'est un roman. Et c'est justement ce qui en fait une œuvre exceptionnelle. Le livre est paru en 2004, donc c'est un roman qui se déroule, dont l'action se déroule sous l'occupation, et qui a été écrit pendant l'exode et l'occupation. C'est-à-dire que les faits qu'il raconte sont exactement contemporains de l'époque que vit l'auteur. Et moi je dis toujours, non, ce n'est pas un roman inachevé, parce que Irène Némirovski avait l'intention de le terminer. C'est un roman qui a été interrompu. C'est pas un roman qu'elle a cessé d'écrire pour une raison tout à fait fortuite. Cessé d'écrire parce que les gendarmes français sont venus l'arrêter. Ce roman est paru en 2004 et l'éditeur, avec raison d'ailleurs, l'a fait suivre d'un dossier dans lequel on trouve les lettres d'Irène Némirovski à son éditeur, à son mari, les lettres de son mari à son éditeur au moment de son arrestation, ce qui augmentait la charge dramatique du livre, bien entendu. Et donc, on a été tenté de prendre ce livre pour un document. L'éditeur y a un petit peu contribué lui-même, disant, je me rappelle, en quatrième de couverture, c'était marqué C'est la redécouverte d'un pan à vif de notre mémoire, c'était les mots qui étaient utilisés, etc. Dans la presse, on a pu lire, dans Le Monde notamment, on a pu lire que c'était un devoir de mémoire déguisé, une opération commerciale déguisée en devoir de mémoire, etc. Voilà. Donc on a voulu, on a tout ça a préparé le public à percevoir cette œuvre comme un document, et à tort à mon avis. C'est la première fois qu'un grand prix, le prix Renaudot, qui a été attribué à Sud Française, était attribué de façon posthume. Donc évidemment, pour les concurrents qui étaient encore vivants, c'était un petit peu dur à digérer. Sauf que, encore une fois, c'était une œuvre interrompue. Ce qui est en plus fascinant quand on lit les brouillons d'Irène Mirovski, c'est qu'elle écrit « Je veux écrire un roman, Sud Française, qu'on pourra lire en 2052 ». Donc c'était tout à fait mérité et même anticipé de lui donner ce prix en 2004. D'une certaine façon, c'était un roman tout à fait contemporain. Dans sa manière, en tout cas. Alors, pour revenir à ce malentendu, le fait qu'on ait pris ce roman pour un document, c'est assez gênant, parce que, du coup, on ne comprend plus de la même façon l'ironie d'Irène Némirovski qu'elle porte sur ses différents personnages. On ne comprend plus qu'il n'y ait pas de personnage juif dans ce roman. Il y a le mot juif, on le trouve. Hein. J'ai lu souvent, le mot juif n'est même pas dans son roman. Vous vous rendez compte, un roman, un document sur l'occupation dans lequel il n'y a pas le mot juif, c'est honteux, etc. Mais, encore une fois, c'est un roman. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, parce que je crois qu'il y a beaucoup de romans français qui ont été écrits pendant l'occupation, ou juste après l'occupation, pour en citer des quantités, sur cette période, hein, Mon village à l'heure allemande, etc. etc. Mais dans tous ces romans, l'occupation, c'est le cadre du récit, finalement. Tandis que là, c'est véritablement son sujet, et c'est un sujet de fiction. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est qu'elle est très étonnée quand elle écrit Sud Française en 40. Elle n'a qu'une peur, c'est que Colette va écrire un livre sur l'occupation. Elle l'a appris. Et ce livre paraît en mars 41. C'est un très très bref récit où elle raconte l'exode de façon effectivement fictionnelle. C'est ça qui est incroyable. Ça n'est pas un document, ce ne sont pas des choses vues. Ce sont des personnages qu'elle invente dans le cadre de l'exode. Mais le texte de Colette est très très bref. Et alors quand elle découvre ça dans le Figaro en mars 41, Némirovski, elle se dit ouf. Dans son journal, elle lui dit « Ouf, c'est tout ce qu'elle a pu tirer de l'Exode, je suis sauvée ». Et elle est convaincue qu'elle est en train d'écrire le grand roman sur l'occupation. Donc ça, c'est un des malentendus. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce malentendu, il s'est produit en fait tout au long de sa carrière littéraire dans les années 30. Et c'était déjà le cas pour David Golder, où on avait voulu présenter ce roman comme une espèce de roman balzacien de physiologie du banquier et du banquier juif de surcroît, alors que ça n'était pas du tout ça. C'était un roman pour lequel elle s'était inspirée d'un milieu qu'elle connaissait, qui était le milieu de ses parents. Et il y a eu déjà cette erreur de perspective. Donc il faut absolument lire Suite française comme un grand roman. Et un roman surprenant aussi, dans le sens où c'est un des rares romans sur l'occupation où on ne trouve pas le nom de Pétain, de Laval, etc., où on trouve très très peu de dates où le mot Vichy doit figurer une fois, c'est-à-dire que son sujet, ça n'est pas d'écrire un rapport historique, même romancé, sur l'occupation, absolument pas. C'est écrire un roman qui se passe pendant l'occupation. Au début, quand elle commence à travailler Sud Française, dès juillet 40, hein, elle écrit dans son journal que son grand modèle, c'est Tolstoï, c'est Guerre et Paix. Mais elle dit Tolstoï écrivait 50 ans après les événements, tandis que moi, j'écris sur de la lave brûlante. Et Tolstoï avait le génie, ça c'est très intéressant, de trouver le particulier, le singulier, l'ordinaire, voilà, c'est ça, l'ordinaire dans l'exceptionnel. Et là, elle a un événement exceptionnel. Elle a toujours rêvé toute sa vie d'écrire un roman sur la révolution russe qu'elle a vécue, mais elle était très jeune, ses souvenirs étaient très imprécis, puisqu'elle était à Saint-Pétersbourg en 17. Hein. Et là, des événements exceptionnels se reproduisent sous ses yeux. Mais son but, ça n'est pas d'écrire un grand roman historique, c'est, comme Tolstoï, d'en tirer quelque chose d'ordinaire, c'est-à-dire de montrer les réactions ordinaires des gens ordinaires. Alors, c'est ce qui rend, à mon sens, ce roman exceptionnel.
Alors, c'est vrai qu'il y a, pour le journaliste que je suis, c'est singulièrement passionnant. C'est vrai qu'il y a dans Suite française, quand même, effectivement, un côté histoire, pardonnez l'anglicisme, en live, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous citiez, on devrait le relire parce que c'est un beau livre, Mon village à l'heure allemande, qui a eu le Goncourt de Jean-Louis Bory. C'est écrit postérieurement à oui. L'exode, par exemple. Là, on a vraiment l'impression d'y être, quoi, dans ces convois, ces routes poussiéreuses. Et c'est un élément constitutif du talent de narratrice d'Irène Némirovski. Et ça sera ma deuxième question. Paradoxalement, et je voudrais choquer personne en disant ça. Ce que je, peut-être pas le plus dramatique, mais ce que je trouve aussi particulièrement dramatique dans le destin tragique d'Irène Némirovski, c'est quand on la lit, on est très endeuillé des livres sublimes qu'elle aurait certainement écrits. Alors, on fait pas l'histoire, comme on dit, mais on observe une très très grande liberté dans son écriture qui est, qui se fait de plus en plus forte, me semble-t-il, de livre en livre. Il y a une capacité d'incarnation, une espèce de lyrisme sourd dans Suite française, par exemple, qui est tout à fait exceptionnelle et qui aurait certainement donné naissance à un écrivain sans égal, en tout cas dans le contexte littéraire national de l'époque.
Ben, Suite française, quand elle écrit Suite française et puis les quelques récits qu'elle écrit à cette époque, oui. Elle sait pertinemment que ce sont des livres, elle comprend assez vite, que ce sont des livres qui ne paraîtront pas de son vivant, qui paraîtront après la fin de la guerre. Ce qui est très frappant sur la première page du manuscrit, c'est que c'est marqué Suite française, et en haut, elle a marqué les bornes chronologiques du roman. Elle a marqué 1940-1945. C'est tout à fait frappant. Elle avait prévu en 5 volets qui correspondent pratiquement chacun à une année de l'occupation. Ça devait se terminer par un récit qui s'appellerait Les batailles. Les batailles de la libération, sous-entendu. Donc c'est quand même assez inouï. Donc c'est un roman qui est... Le projet lui-même était assez visionnaire. Alors elle sait que ce roman sera posthume, donc elle se donne effectivement une beaucoup plus grande liberté, qu'elle a toujours prise, mais on l'a déjà vu par le passé. Dans certains de ses romans, quand on analyse ses brouillons, elle va changer le nom d'un personnage pour qu'on ne croit pas qu'elle en a fait, pour qu'on ne croit pas qu'il est juif, par exemple. Elle change son nom pour qu'on ne l'accuse pas de l'accabler par antisémitisme, ce qui n'a jamais été son cas, à mon avis. Alors, dans Suite française, elle se donne aussi ce genre de liberté, mais alors ce sont des libertés plus formelles. C'est-à-dire que c'est par rapport à tous ses autres romans qui sont des récits chronologiques très suivis, là, c'est un roman en plusieurs volets, ce qu'elle n'avait jamais fait encore. Dans la première et la deuxième partie, qui sont, quand on dit roman inachevé, en fait, c'est un état du roman. Elle l'aurait peut-être organisé autrement, elle aurait peut-être fait une rédaction plus aboutie de son roman, mais c'est un état qui peut, du roman qui peut se lire tel quel. Mais dans la deuxième partie, Dolce, on ne retrouve pas les personnages de la première, par exemple, ce qui est très surprenant. Mais on sait qu'on les aurait retrouvés dans la troisième partie, parce qu'il y a quand même des ébauches. Et puis, ce qui est très, très étonnant, c'est que c'est un roman par nouvelle. C'est une très grande nouvelliste, Irène Némirovski. Ses nouvelles sont très souvent des vrais bijoux. Au moins la première partie de Suite française, on peut la lire comme une suite de nouvelles tout à fait indépendantes, où apparaissent à chaque fois un personnage qui va réapparaître plusieurs chapitres plus loin. Donc même d'un point de vue formel, c'est très intéressant. Puis il y a autre chose qui a beaucoup étonné le lecteur moderne, et qui est un petit peu finalement le négatif du silence de la mer de Vercors, c'est le flirt entre l'héroïne française et le lieutenant allemand, qui est un intellectuel, qui est un musicien, Bruno Van Falk, exactement comme le héros du Silence de la mer. Donc il y a cette idylle qui commence à se nouer et qui ne va pas pouvoir se concrétiser entre les deux dans Dolce. Et ça, c'est quelque chose d'assez inconvenant, évidemment. Écrire ça sous l'occupation, en pensant le publier à la Libération, c'est tout à fait... C'est tout à fait surprenant, mais c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. Cette union des contraires, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres, dans Les Fumées du Vin, par exemple, dans Les Mouches d'automne aussi, où on voit des bolcheviques qui tombent amoureux d'une jeune fille de bonne famille, etc. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ce côté inconvenant, c'est tout à fait spécifique à Irène Némirovski. Je me rappelle qu'il y a un passage du journal de Léon Werth où il dit « Je m'étonne ». Qu'aucun romancier français n'ait raconté ces rencontres entre les Français et les Allemands, alors que ce sont des choses qui se sont produites, mais les romanciers français ont voulu privilégier la légende dorée. Mais Irène Némirovski l'a fait. Léon Werth, j'ai jamais trouvé de connexion entre Léon Werth et Irène Némirovski, mais s'il l'avait lu, il se serait rendu compte que c'est un des très rares romanciers français, une des très rares romancières françaises à avoir affronté ce sujet-là vraiment de front.
Et aujourd'hui, 10 ans après sa parution, je l'ai dit, comment, au-delà de cette question d'un éventuel malentendu, bien entendu, ce n'est pas que ça, comment comprenez-vous le succès mondial de Suite française ?
Bah, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, effectivement. Alors, d'abord, le premier étonnement, c'est que suite à Suite française, des romans qui étaient indisponibles, inconnus, voire qui ont été redécouverts après.
Je me permets de vous interrompre. Quels sont les grands pays, peut-être qu'il faut qu'on rappelle ça quand même, les grands pays qui ont vraiment embrayé, si j'ose dire, sur Irène Némirovski.
C'est principalement
les États-Unis, la Grande-Bretagne.
C'est principalement les pays anglo-saxons.
Ouais.
En Italie, elle a un très grand succès, effectivement. Vraiment, les éditions Adelphi italiennes ont fait un travail formidable d'édition d'Irène Némirovski en italien. Mais c'est surtout des États-Unis, c'est vrai, qui est venu le succès beaucoup plus grand qu'en France, d'ailleurs. Parce que ça les a beaucoup surpris, je pense. Ça présente de façon romanesque ce que Primo Levi appelait la zone grise, c'est-à-dire des personnages qui ne sont ni tout à fait des collabos, ni tout à fait des résistants, ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais. Voilà, c'est le ventre mou de la population française pendant l'occupation qui est représentée dans Suite française. On a tout le monde a des comportements dans Suite française, des comportements admirables, mais aussi des comportements assez méprisables. Et Irène Némirovski les traite tous par l'ironie, mais jamais par le jugement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup intrigué les Américains quand je suis allé. Il y a eu une exposition sur Irène Némirovski au Musée de l'héritage juif à New York. Et c'est une des questions qui revenait fréquemment. On voulait absolument savoir si Irène Némirovski avait été une résistante ou une collabo, si elle avait représenté dans son roman des résistants ou des collabos, etc. L'idée qu'il puisse y avoir, que les intrigues puissent être plus complexes que cela, c'est quelque chose que les Américains avaient beaucoup de mal à percevoir. Et je pense que c'est ce qui a contribué, entre autres, à leur succès. Bon, par ailleurs, il est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais la redécouverte elle-même du manuscrit est une histoire tellement extraordinaire, presque hollywoodienne.
Revenons-y, si vous voulez.
Que ça ne pouvait que séduire les Américains.
Alors, rappelons les circonstances.
Bah, ce roman, donc, Irène Némirovski l'écrit en 1940, dès qu'elle rejoint ses filles, qu'elle a envoyé au moment de la déclaration de guerre en 1939, elle a envoyé ses filles chez la mère de leur nourrice dans un village de Bourgogne, qui va se retrouver ensuite juste au nord de la ligne de démarcation. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce qu'elle aurait pu très facilement passer au sud, mais elle tenait à garder le contact avec les éditeurs parisiens, qui étaient ses seules sources de subsistance, son mari ayant été radié de la banque où il travaillait dès octobre 40. Donc elle les rejoint, elle commence à écrire Suite française dès juillet 40, qu'elle réserve pour des jours meilleurs. En juillet 42, donc, la police française vient l'arrêter au village, ne l'emmène qu'elle, c'est-à-dire qu'elle laisse le mari. Il y avait des quotas, on lui avait dit vous allez arrêter Madame Némirovski, mais pas son mari ni ses filles, ce sera pour plus tard. Donc son mari et ses petites filles sont obligés de dire au revoir à la mère, le mari à sa femme et les enfants à leur mère. Et 4 jours plus tard, elle est déportée. Entre-temps, elle a été emmenée au camp de Pithiviers. Et elle est déportée le 15 juillet pour une raison simple, c'est qu'entre le 15 et le 17, il y a le Veldiv à Paris, qui était programmé, bien entendu, et qu'il fallait faire de la place dans le camp de Pithiviers pour apporter les 11 000 juifs qui ont été arrêtés à Paris. Donc tout le camp de Pithiviers est vidé à ce moment-là. Donc elle est déportée à Auschwitz. C'est une femme qui est asthmatique depuis toute petite. Donc dans ces conditions-là, elle ne va pas survivre plus d'un mois. Elle meurt en août 42 du typhus, très probablement. Et le manuscrit, qu'en advient-il ? Son mari, Michel Epstein, est arrêté en octobre 42. Immédiatement après son arrestation, les petites filles sont emmenées par la gouvernante des deux petites filles. Et ils vont être cachés, notamment dans un pensionnat à Bordeaux, jusqu'à la libération pour l'aîné. L'autre dans
près, ce... près de Bordeaux, en Gironde.
Enfin, près de Bordeaux, dans la région bordelaise. Voilà. Et dans leur fuite, les jeunes filles et la gouvernante emportent une valise dans laquelle il y a notamment le manuscrit de Suite française que leur père leur a confié le jour de son arrestation à lui, le 8 octobre 1942. En leur disant « Conservez-le, votre mère reviendra pour le terminer ». Alors il y avait ce manuscrit, il y avait aussi toutes sortes de documents, des photos de famille, etc. Et donc cette valise a été conservée précieusement par les filles d'Irène Némirovski jusqu'en 2004.
Dans des conditions parfois extrêmement difficiles, délicates, parce qu'elle-même était dans des situations de grand péril, enfant caché.
Ah oui, bien sûr, oui.
Donc c'est miraculeux qu'elles aient réussi à conserver cette valise
c'est assez miraculeux,
à travers les aléas de la guerre.
Moi, ce que j'ai découvert en travaillant sur la biographie d'Irène Némirovski et puis en parlant avec sa fille, c'est que ce manuscrit, donc, que Denise Epstein a commencé à transcrire dans les années 80 parce qu'il y a eu une inondation chez elle, et elle s'est dit, mais si je ne transcris pas ce manuscrit, ça pose plein de questions d'ailleurs, si je ne transcris pas ce manuscrit, il sera peut-être perdu à jamais. Alors, ce qu'elle semblait ignorer, c'est qu'il existe une version tapuscrite, tapée à la machine, de Suite française, par Irène Némirovski, et qui est d'ailleurs une version plus aboutie que celle qu'on lit, celle qui a été publiée, c'est tout à fait étonnant, pas forcément plus intéressante, parce qu'elle a beaucoup, elle a coupé beaucoup de choses qui nous intéressent, mais une version qui, à son sens, à elle, écrivain, était plus aboutie. Voilà. Ça existait bizarrement. Mais la transcription du manuscrit, Denise donc l'a faite pour en préserver le contenu. Pas du tout dans l'idée de le publier. C'est Myriam Anisimov, l'écrivain Myriam Anisimov, qui était une amie, qui, en le lisant peu avant 2004, lui a dit « Mais c'est un roman extraordinaire, il faut le publier. » Et donc, voilà, elle l'a recommandé aux éditions de Noël. Mais alors, moi, ce que j'ai découvert, en lisant les articles de l'époque, etc., je suis tombé sur un article de 1947 paru dans la Tribune de Genève, d'une journaliste qui parlait du destin des filles d'Irène Némirovski, et qui parlait d'un roman inachevé intitulé « Suite française », dont le sujet était l'occupation, etc. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. Donc ça veut dire que ce manuscrit, il était connu d'autres personnes que des filles d'Irène Némirovski. J'ai interrogé cette journaliste, qui vit toujours, qui en plus habitait près de chez moi, donc c'est très pratique, dans la région parisienne, une journaliste donc, d'un certain âge, cette dame, et qui m'a dit que, oui, elle avait eu connaissance du manuscrit en 1947, parce qu'elle était en contact avec les filles. Elle voulait écrire un sujet sur Irène Némirovski. Elle a pris contact avec les filles qui lui ont dit « Mais on a un manuscrit de maman. Si ça vous intéresse, on vous l'envoie par la poste. » Et elle l'a envoyé par la poste à Genève.
Oui.
Cette journaliste en a pris connaissance, l'a retourné par le courrier. Donc, c'est-à-dire que dès cette époque, les filles savaient qu'il s'agissait d'un roman, mais un roman inachevé. Et elles considéraient qu'il n'était pas... Elle considérait que c'était un brouillon, elle ne l'avait jamais lu en détail. Elle considérait que moralement, on ne pouvait pas publier un roman sur lequel Irène Némirovski n'avait pas écrit le mot fin. Même si le mot fin, matériellement, se trouve à la fin de la deuxième partie. Donc ça, c'est un petit peu c'est l'histoire du manuscrit qui n'était pas promis à avoir un immense succès éditorial, d'ailleurs. Hein. De Noël l'avait tiré à 10 000 exemplaires, je crois, en 2004.
C'est déjà pas mal.
Et puis, finalement, ça a été un succès international, au point qu'on attend la sortie du film qui est tiré de Suite française, qui sort en janvier 2015, je crois. Ouais, une super production
franco-américaine.
Franco-américaine.
Je reviens sur les circonstances, comme ça, de la disparition d'Irène Némirovski, de son mari, père de ses enfants. Il y a vraiment une chose qui m'a toujours infiniment troublé dans les quelques papiers que j'ai pu écrire à ce sujet, c'est comment se fait-il, quand vraiment la nuit tombe sur Irène Némirovski, donc l'été 40, si je ne dis pas de sottises, elle est dans le Pays Basque, elle est à Hendaye, dans une maison qu'elle loue depuis des années, elle a toujours passé beaucoup de temps dans le Pays Basque, d'abord alors qu'elle était encore russe avec ses parents à Biarritz, et puis ensuite, dès qu'elle a pu, elle a loué des maisons avec son mari, ses enfants, parfois une famille un peu plus élargie qui venait dire bonjour, des amis, d'abord à Urugne et ensuite à Hendaye. Bref, elle est dans sa maison d'Hendaye, elle a quoi ? Elle a la Bidassoa à travers... c'est pas la Bidassoa. Elle a un bras de mer à traverser ? Ça se faisait déjà à l'époque, hein, les navettes entre Hendaye et Fontarabie.
Oui.
Ça se faisait déjà, ça existait déjà. C'est 5 minutes en bateau. 5 minutes en bateau, oui. Et c'était la liberté. Et des dizaines de milliers de gens vont le faire durant ces années-là. Et même des gens assez célèbres, et même des écrivains et tout ça. Elle qui en plus avait, semble-t-il, une préscience forte et étonnante.
Oui.
De ce qui risquait de lui arriver, pourquoi et comment n'a-t-elle pas pris ce petit bateau-là ?
Alors, d'abord, le dernier été qu'elle passe à Hendaye, dans sa villa, qui s'appelait Enechea, c'est en 39, c'est au moment de la déclaration de guerre.
Absolument.
Donc, à ce moment-là, le danger n'est pas aussi imminent que ça. Donc, elle retourne à Paris. Mais on peut se poser quand même la même question. Ouais. Et beaucoup se la sont posées. Ses amis américains, elle en avait. Les amis français qui avaient fui aux États-Unis se la sont posées aussi en 40. Mais pourquoi ne nous as-tu pas demandé de t'accueillir aux États-Unis ? Pourquoi n'es-tu pas parti quand tu pouvais le faire ? Pourquoi, alors que le village où tu étais réfugié, ici l'évêque, en Bourgogne, est passé successivement de la zone nord en zone sud, en zone nord, n'es-tu pas resté en zone sud ? Parce que la ligne, elle a bougé pendant l'été 40. Elle n'était pas tout à fait fixe. Alors, je vous l'ai dit, c'était pour rester en contact avec ses éditeurs parisiens. Mais si on avait posé la question à Denise Epstein, si elle avait été là ce soir, je pense qu'elle vous aurait répondu ce qu'elle a entendu dire à sa mère à cette époque. C'est plus d'exil dans ma vie, parce que c'est une exilée. Elle est née à Kiev, en Ukraine. Ensuite, c'est Saint-Pétersbourg. Ensuite, c'est la Révolution, c'est Moscou, où son père se dit, ça va durer quelques semaines, et puis les bolcheviks vont être écrasés. Bon, ça n'est pas ce qui se passe. On retourne à Saint-Pétersbourg, on passe en Finlande en traîneau. On reste une année dans un petit village à la frontière avec des réfugiés russes en se disant que peut-être on va pouvoir revenir quand même. Ensuite, il y a la guerre d'hiver. La frontière russo-finlandaise est reculée. Il faut fuir un petit peu plus loin. Ça va être la Suède. Et puis finalement, en 19, les bolcheviks ont gagné la partie. Et les Némirovski, s'exilent définitivement en France. Donc, plus d'exil pour Irène Némirovski. Et puis, autre chose très importante, à mon avis, c'est son attachement viscéral à la France. Elle considère qu'étant un écrivain français, de langue française, même si elle n'a jamais été naturalisée française, ce serait une très grande lâcheté de fuir la France. J'en suis absolument convaincu. Comme beaucoup de Juifs de France à cette époque, elle a écrit une lettre au maréchal Pétain quand elle a lu le statut des Juifs. En octobre 40, en disant « mais je ne comprends pas, je suis un écrivain français, je ne me suis jamais mêlé de politique, j'ai toujours écrit en français, on ne peut pas me considérer comme une étrangère, mais au regard de la loi, si, bien sûr ». Donc pour elle, rester en France et rester proche de la langue française, c'était absolument indispensable. Elle ne pouvait pas imaginer de quitter la France. Je pense que ça aurait représenté vraiment une trahison pour elle.
Est-ce qu'à votre avis, on est sur le même cas de figure ? Vous savez, il y a un livre qui a eu beaucoup de succès, et un succès amplement mérité, à mon sens. C'est le journal d'Hélène Baer, il y a quelques années. Hélène Baer étant cette petite jeune femme d'origine juive, française, franco-alsacienne d'ailleurs, qui a été déportée, qui a trouvé la mort en déportation relativement rapidement après sa déportation. Ça devait être en 1944. Quand on lit le journal d'Hélène Baer, quand on lit les extraits de correspondance qui sont inclus d'ailleurs dans ce journal, on voit bien qu'elle se considère avant tout comme française. C'est-à-dire que malgré la montée des périls, parce que son père est arrêté par deux fois, envoyé au Veldiv, ramené, renvoyé au Veldiv, etc., malgré tout ça, elle n'arrive pas à comprendre ce qui pourtant, pardonnez-moi, est sous son nez.
Mais dans le cas d'Irène Némirovski, c'est presque encore plus frappant, parce que les avertissements, il y en a eu depuis le début des années 30, et elle est, contrairement à ce qu'on a pu entendre, elle est parfaitement au courant de la menace antisémite, de la menace nazie. Dès 34, pendant l'année 34, elle a écrit quelques articles de presse sur des pièces de théâtre qu'un journal lui demandait d'aller voir et de commenter. Elle a été voir une pièce d'un réfugié autrichien, une pièce qui s'appelait « Les races », et de Bruckner, et qui racontait justement la montée nazie en Autriche, voilà, la montée du nazisme en Autriche et de l'antisémitisme. Et Irène Némirovski relate cette pièce dans ce journal et dit que on n'a pas voulu entendre pendant la Révolution russe que ceux qui ont des oreilles entendent, la menace est à nos portes, etc. Enfin, c'est très très clair. La menace antisémite, elle l'identifie parfaitement. À partir de 36-37, des brochures antisémites paraissent en France dans lesquelles on recense les juifs qui travaillent dans la fonction publique, dans les métiers, dans la magistrature, bien entendu dans les métiers artistiques, au cinéma, dans la littérature. Le nom d'Irène Némirovski est reproduit. Elle ne peut pas l'ignorer, ça. Donc elle sait parfaitement que la menace, elle vaut aussi pour elle, même si c'est encore une menace verbale. Elle se fait baptiser en 1939. Donc elle n'a jamais... C'est à moitié un reniement, dans la mesure où elle n'a jamais pratiqué le judaïsme, où elle ne sait d'ailleurs même pas parler le yiddish, qui est la langue... même le russe, elle l'a parlé après le français. Tout ça, ce sont des mesures quand même de protection individuelle. Elle se fait baptiser pour faire baptiser aussi ses filles, pour les protéger. Et malgré cela, en 1940, elle n'imagine pas que ces menaces puissent la rattraper aussi vite. Ça reste quand même un mystère. C'est seulement en mars 42 qu'elle en prend nettement conscience. Elle a idéalisé depuis toujours la France et les Français. dans ses manuscrits, c'est très frappant. Elle écrit en 1940 un roman qui précède immédiatement Suite française, qui se termine avec l'invasion, qui s'appelle Les biens de ce monde, qui est vraiment chronologiquement le roman qui précède Suite française. On peut très bien lire les deux à la suite, mais le ton est très différent. Dans Le bien de ce monde, elle porte un regard extrêmement, un peu ironique, mais très bienveillant sur ces familles de bourgeois français qui se relèvent de toutes les avanies, qui ont été battues en 70, en 14, mais qui se relèvent et qui vont se battre vaillamment en 40, etc. Et dans le... elle a une phrase dans le brouillon de ce roman où elle écrit « Je les aime beaucoup, ces bourgeois français, etc. etc. » Et elle, ce brouillon, on peut le voir aujourd'hui, en mars 42, elle le relit. Le livre est paru déjà en feuilleton dans la presse. Elle le relit et au-dessus de cette phrase où elle parlait de ces gentils français, elle marque d'une encre différente, elle marque mars 42, elle date mars 42, haine et mépris. Pour les Français. C'est en mars 42 qu'il y a sa prise de conscience. Mais mars 42, c'est les premiers convois. C'est déjà beaucoup trop tard. Mars 42, c'est la date où plus aucun journal n'accepte de publier ses nouvelles. Tous les journaux, les uns après les autres, à partir d'octobre 40, ont refusé ses nouvelles, même sous pseudonyme. Ironiquement, il y en a un seul qui a continué à publier ses nouvelles sous pseudonyme, c'est Gringoire, qui était devenu un journal pétainiste et antisémite sous l'occupation. Mais bon, les jeux de l'amitié, parce qu'il y avait une amitié une fidélité en tout cas, entre le directeur de Gringoire et Irène Némirovski, fait qu'il a pu la publier sous pseudonyme jusqu'en mars 42. Et en mars 42, ça n'est plus possible, c'est devenu trop dangereux. Et à partir de mars 42, elle n'a plus aucun moyen de subsistance. Voilà.
À ce sujet, deux questions. La première, il me semble que vous y avez répondu dans votre biographie, où je crois que vous faites définitivement le lit des accusations qui ont toujours été portées, y compris de son vivant, envers Irène Némirovski, d'un espèce de paradoxal antisémitisme. Vous avez rappelé, comme ça rapidement tout à l'heure, la figure du banquier juif David Golder, dans David Golder, qui a parfois été mal perçu. Vous avez rappelé sa collaboration avec Gringoire, etc. Il faut que les choses soient dites de ce point de vue-là, d'ailleurs. C'est amusant parce qu'elle partage ce douteux privilège avec un autre juif éminent et admirable de ces années-là, qui est Emmanuel Berle, à qui on a pu reprocher d'avoir écrit les discours du maréchal Pétain, ce qui n'est pas tout à fait exact et pas complètement faux. Enfin bon, bref.
C'est une question vaste et complexe. Oui, c'est une question vraiment, là.
Mais laissons Berle pour ce soir, qui pourrait faire l'objet d'une grande biographie à lui tout seul. Oui. Mais, et revenons sur Irène Némirovski et sur ses rapports compliqués de fait. Je crois que par contre, c'est l'accuser de rien, d'avouer qu'elle a des rapports, semble-t-il, assez compliqués avec le judaïsme.
Oui. Oui, bien sûr. C'est une question vraiment très, très, très complexe. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire, et c'est ce qui lui a été reproché très bien par quelques journalistes juifs à l'époque, on peut faire une lecture antisémite de certains de ses romans. Ce qui ne veut pas dire que les romans sont antisémites. David Golder, d'ailleurs c'est très frappant, quand on lit la presse énorme qui est parue autour de David Golder en 1930, on trouve absolument de tout. Les communistes, la presse communiste, l'Humanité va dire c'est une charge contre le capitalisme, alors qu'elle est elle-même la fille d'un grand banquier, d'un très grand banquier. À l'autre extrême, l'extrême droite, l'Action française, etc., va dire c'est une charge contre les parasites venus de l'Est, qui contre les métèques, qui sont infiltrés aux meilleures places et qui gangrènent le pays, etc. D'autres vont dire c'est un roman autobiographique, que c'est en partie un roman inspiré de sa jeunesse, en effet. Donc il y a plein de lectures possibles de ce roman David Golder, où on trouve des clichés, qui sont des clichés antisémites, mais j'ai envie de dire que ces caricatures, elle ne les dessine pas, elle les montre, en quelque sorte. Et ça, ça fait toute la différence. Et dans plusieurs romans des années 30, ce sera exactement le même procédé. Depuis la découverte en 2005 de tout un tas de brouillons, de manuscrits inédits d'Irène Némirovski, qui était restée cachée chez Albin Michel pendant 70 ans, dans les greniers d'Albin Michel, pendant plus de 60 ans, on a découvert tous les brouillons de David Golder. Il y en a eu 3 ou 4. Et alors c'est très intéressant parce qu'elle met 4 ans à l'écrire et la première rédaction de ce roman, qui est très controversé, c'est véritablement l'histoire de ses parents qui est transposée. C'est pratiquement écrit à la première personne, c'est rempli de subjectivité, d'affect, etc. Et ensuite, et ça, ça vaut pour pratiquement tous ses livres, pour ne pas qu'on lui reproche une trop grande proximité avec ses personnages, pour être une grande romancière objective qui prend du recul, un faux recul, avec ses personnages et avec ses récits, au fur et à mesure des rédactions, elle gomme, elle raye et elle durcit le ton. Et alors, c'est très étonnant parce que dans la première rédaction de David Golder, c'est un pauvre petit juif pauvre, pitoyable, qui est né dans l'Est, dans le ghetto, et qui se forge lui-même à la force du poignet. Voilà, c'est vraiment le prototype du self-made man. Ce qui est pour elle, alors c'est aussi un cliché, la qualité première des juifs de l'Est, c'est l'esprit d'entreprise, on appellerait ça aujourd'hui la résilience, si on veut. Et alors, au fur et à mesure de la réaction de David Golder, elle gomme tout ça, et il reste un roman extrêmement noir, extrêmement dur, qu'on a qualifié de viril à l'époque. Beaucoup de critiques étaient extrêmement surpris que ce soit une jeune femme qui ait écrit ce roman. D'ailleurs, certains critiques même pensaient qu'il y avait une erreur sur son prénom, qu'elle s'appelait Renée et non pas Irène. Et donc tout le malentendu de David Golder naît de là. Mais alors, il y a une chose qu'il faut rappeler. Irène Némirovski écrivait antisémite. Nous, on peut faire une lecture antisémite de certaines de ses œuvres. On va trouver des clichés qui sont en fait la représentation des clichés de son époque qu'elle met en scène dans ses romans. Je pense qu'il y a très peu d'écrivains français de ces années-là, des années 30, qui mettent en scène comme ça l'antisémitisme, justement, le préjugé antisémite et le préjugé xénophobe, qui est mis en scène de façon très crue et très objective dans ses romans. Et puis, il faut quand même rappeler que, contrairement à d'autres grands romanciers antisémites avérés de l'époque, comme Drieu, comme Céline, comme des tas d'autres, Irène Némirovski n'a jamais pris position. Elle n'a écrit aucun essai, elle n'a publié aucune tribune nulle part, elle n'a jamais pris publiquement la parole pour exprimer quelques pensées antisémites que ce soit. Donc, tout dépend des lecteurs, à vrai dire.
Oui, mais ce que Drieu et Céline n'étaient pas, personne n'est parfait, c'était juif. Ce qui est quand même le cas et ce qui rend les choses quand même singulièrement troublantes. Moi, j'ai l'impression, mais peut-être vous me direz, j'ai l'impression que, je ne dirais pas qu'elle a été réconciliée avec sa judaïté, mais que son mari, Michel Epstein, qui semblait avoir un rapport peut-être plus apaisé avec la judaïté, a peut-être contribué à rendre les choses un peu plus douces, un peu plus...
C'est possible. Les parents de Michel Epstein,
oui,
surtout,
oui.
Qui eux, étaient, oui, vivaient encore dans cet esprit-là. Alors qu'on peut dire, en tout cas, la mère d'Irène Némirovski était complètement déjudaïsée et surtout était... alors, je ne sais pas si elle était antisémite, mais elle rejetait complètement cette part d'elle-même. Elle voulait être considérée comme une bourgeoise française. Elle a menti sur son âge, elle a menti sur son prénom qu'elle a modifié. Donc, elle s'appelait Anna, qui était entre autres un prénom juif en Russie à l'époque, qu'elle avait corrigé en Fanny, etc. Donc, très très souvent, dans les romans d'Irène Némirovski, c'est aussi la transposition du regard que portait sa mère sur son propre judaïsme. C'est vrai que du côté de Michel Epstein, il y avait un rapport peut-être plus proche au judaïsme. Le père d'Irène Némirovski aussi, puisqu'on sait qu'il lui chantait des chansons yiddish, etc.
Peut-être pour terminer sur ce sujet, faut-il rappeler quand même qu'il y a dans la communauté juive venue du Yiddishland de ces années-là, parmi les bourgeois, on va dire, de cette communauté, il y a une haine absolue du shtetl, crasseux.
Ah mais bien sûr.
Mettez-y les 14 guillemets d'usage, enjuivé. Oui. Donc c'est plus une haine de classe, d'une certaine manière, qu'un antisémitisme paradoxal.
Tout à fait. Ça, c'est très bien mis en scène dans un roman qui est paru en 40, au mauvais moment malheureusement, qui s'appelle Les chiens et les loups, qui est l'histoire de deux frères, je résume vraiment un très très grand trait, qui s'appellent Ben et Harry Sinner, qui sont tous les deux émigrés en France, mais l'un effectivement est devenu un bourgeois qui a épousé une fille de banquier français et qui tâche à toute force de faire oublier ce passé judéo-russe. Et l'autre, Ben Sinner, est en fait son frère, n'a pas si bien réussi et est une sorte de Stavisky, en fait. C'est un personnage inspiré de Stavisky, c'est-à-dire c'est l'escroc qui essaie de prospérer tant bien que mal en France au cours des années 30. Et à la fin du roman, Ben Sinner, donc, qui va être arrêté et qui va même être déporté, le mot est écrit dans le roman, hein, elle l'a écrit en 39, dit à son frère: mais qu'est-ce que tu crois, on finira par te confondre avec moi et tu finiras toi aussi, c'est pas le mot déporté qu'elle emploie là, mais tu finiras rejeté et refoulé tout à fait comme moi ne te fait aucune illusion. Ce qui est, alors c'est, ce qui, ce roman met en scène ça. Voilà, ce rejet classe, effectivement, où les Juifs français, les Juifs assimilés, comme on disait, voulaient absolument rien avoir à faire avec ce que Albert Londres appelait dans ces années-là les Juifs sauvages, oui. C'est-à-dire les Juifs venus de l'Est, venus du ghetto, effectivement. Mais c'est très lucide ce qu'écrit Irène Némirovski là, parce que effectivement, on va commencer par arrêter les Juifs étrangers et ensuite les Juifs français pendant l'occupation. Elle a été arrêtée comme étrangère, mais à partir de 1942-1943, ce sont les Juifs français qui sont arrêtés également, naturalisés français.
En fait, de Roger, moi, j'ai l'impression, en ayant lu votre livre, qu'il y a un dernier Roger qui conduira, parmi d'autres choses, aux conséquences tragiques que l'on sait, c'est que Irène Némirovski n'est pas tellement considérée par la classe intellectuelle de ces années-là. J'ai pas l'impression que ce soit... voilà, quand Max Jacob, le résultat sera le même, hélas, mais quand Max Jacob quand Max Jacob est arrêté, des gens comme Cocteau, il n'y a pas que Cocteau, même Guitry se mobilise pour Jacob.
Oui.
Qui s'est mobilisé pour Irène Némirovski ?
Mais pas les bonnes personnes.
Ouais.
C'est-à-dire que Irène Némirovski, il y a quelque chose qui est fondamental dans sa vie, c'est que d'abord, il y a une enfance malheureuse, il y a un père qui est tout le temps en voyage d'affaires, qu'elle ne voit jamais, qu'elle adore mais qu'elle ne voit pas, il y a une mère qui la hait, qui la déteste, toute sa vie, elle est à la recherche d'une famille. Donc elle va fonder une famille, son baptême en 39, ça correspond aussi à cette recherche, ce besoin d'être protégé, ce besoin d'être aimé. Et correspond aussi à cette demande, son envie de faire partie de la famille des écrivains français. Et pour elle, c'est l'Académie, c'est la Société des gens de lettres, c'est la Revue des deux mondes, c'est-à-dire des institutions, de très vieilles institutions de la littérature française, mais qui ne sont pas du tout qui ne sont pas la Nouvelle Revue française, ce ne sont pas du tout les milieux progressistes, ce sont des milieux très conservateurs et qui, en 40, vont passer franchement à droite, voire à la collaboration. Donc les seules personnes qui peuvent l'aider à partir de 41-42, les seules sonnettes d'alarme que va pouvoir tirer son mari Michel Epstein, ce sont ces gens-là. C'est-à-dire des gens qui pourraient quelque chose, mais qui ne vont rien faire. Le seul qui va vraiment se démener, alors on peut dire, c'est son éditeur, Albin Michel, qui s'est comporté admirablement à l'égard d'Irène Némirovski et de ses filles. Mais les autres, ça va être Paul Morand, ça va être André Chomex, le directeur de la Revue des Deux Mondes. Enfin, c'est des gens qui n'ont plus tellement envie de se bouger, quoi, et qui pensent surtout à conserver leur titre, etc., et à durer jusqu'à la fin de la guerre. Donc, effectivement, elle a, de ce point de vue-là, elle n'a pas fait les bons choix.
Je reviens à l'édition que vous venez de faire de l'intégrale de son œuvre au livre de poche en Pochothèque. J'imagine que vous avez à cette occasion relu peut-être pas tout, mais tout.
Ah, oui.
Oui, bien sûr. Alors vous qui êtes plongé dedans comme un nageur en train de se noyer depuis pas mal d'années maintenant, est-ce que à cette occasion il y a encore quelque chose qui vous a surpris, sauté aux yeux, étonné, etc.
Ah, c'est une question difficile, ça. Oui, chaque lecture est intéressante. Alors, c'est amusant que vous utilisiez le terme noyé, parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé, qui a frappé tous les lecteurs de Suite française. C'est la mort de l'abbé Pérican dans Suite française. Pour ceux qui l'ont lu, vous vous rappelez peut-être de ça. C'est un abbé qui s'occupe d'une petite troupe d'orphelins. Qui vont redevenir des bêtes sauvages à la faveur de l'occupation et qui vont le noyer à coups de pierre dans un étang. C'est un des chapitres les plus terrifiants de Suite française. Donc, un mort par noyade. Et bien, si vous lisez tous les livres d'Irène Némirovski, vous allez vous rendre compte, et ça, je m'en suis aperçu effectivement en relisant tout, que dans presque tous ces livres, même les nouvelles, il y a des scènes de noyade, métaphoriques ou non. Alors ça, c'est très surprenant, et l'origine, à mon avis, elle est très simple à déterminer. C'est qu'un des événements fondateurs de la vie d'Irène Némirovski, c'est la mort de sa gouvernante française. Je suis tenté de dire que la mère d'Irène Némirovski a noyé la mère d'Irène Némirovski. Je m'explique. Irène Némirovski n'a jamais considéré que sa mère naturelle, était sa véritable mère. Elle ne s'est jamais occupée d'elle. Sa véritable mère, c'est sa gouvernante française, comme beaucoup de Russes de la classe aisée de l'époque. Elle a été élevée et éduquée par une gouvernante qu'on avait fait venir de France. Et Irène Némirovski, petite fille très perspicace, très précoce, a découvert très vite, vers 13-14 ans, que sa mère avait des relations adultères par dizaines. Et elle le lui a fait comprendre, d'une façon ou d'une autre. C'est mis en scène dans plusieurs de ses livres, dans L'ennemi, par exemple, qui est un de ses romans de jeunesse, dans Le bal aussi. Sa mère n'a pas pu croire que la petite fille avait trouvé ça toute seule, ou n'a pas voulu croire que la petite fille avait compris cela toute seule. Donc elle a fait reposer la faute sur la gouvernante française, Marie, qu'Irène Némirovski adorait. Et cette gouvernante a été renvoyée. On est en 16 ou en 17 à peu près, à Saint-Pétersbourg, et elle est allée se noyer, elle s'est jetée dans la Moïka, qui est un des canaux de Saint-Pétersbourg. Ça, Irène Némirovski l'a authentifié, parce que quand un des romans qui est inspiré de cette histoire, Les Mouches d'automne, très beau roman, est paru en 1933, on lui a reproché que cette histoire était trop mélodramatique et que franchement, le suicide de la gouvernante dans la scène à la fin, c'était véritablement trop mélodramatique. Et Irène Némirovski a répondu par un nouveau prière d'inséré en disant « Je sais qu'on m'a reproché que c'était trop mélo, mais c'est la vérité, c'est arrivé à ma gouvernante. » Et elle rajoute d'ailleurs une petite phrase très ambiguë où on comprend qu'elle se l'est reproché puisque finalement, c'est un peu par sa faute que c'est arrivé. Donc tous ces personnages de noyés, c'est une des découvertes que j'ai faites en relisant toute cette œuvre. Et bien, on s'aperçoit que c'est effectivement un fait extrêmement marquant dans la vie d'Irène Némirovski. Et ça permet aussi de mieux comprendre la haine teintée de pitié qu'elle a eue pour sa mère tout au long de sa vie.
Au-delà de la noyade, est-ce qu'il y a une cohérence qui vous est apparue, ou au contraire, c'est dans la diversité et la pluralité que se construit cette œuvre ? Ce qui d'ailleurs n'est pas nécessairement contradictoire. Il peut y avoir des cohérences contre.
Oui. Non, c'est vraiment. On peut distinguer pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a jusqu'en 1930, les romans sont très imprégnés d'autobiographie. Le style n'est pas encore tout à fait abouti. Ouais. C'est surtout très virulent parce que la haine de la mère est très très présente. Et on sent encore beaucoup d'acrimonie, beaucoup de fiel. Je pense que la rencontre de son mari, son mariage, lui permettent de surmonter cela, justement. Ensuite, on a, de 1930 à 1940, toute une série de romans. C'est assez intéressant parce qu'elle alterne les grands romans français, un petit peu à la Mauriac, qui est un de ses auteurs de référence, où elle essaye de chasser tous les thèmes judéo-russes, et puis elle y revient quand même sans cesse. Alors c'est pratiquement un sur deux. On a des romans où elle va se replonger dans cet univers, puis des romans où elle essaye de construire des grandes intrigues à la façon de Duhamel, des grands romanciers français de cette époque. Et puis on a la dernière période, qui est 1940-1942, où la plupart des écrits, des textes qu'elle écrit à ce moment-là sont inspirés vraiment de la Bourgogne où elle vit à ce moment-là. Ce qui montre qu'Irène Némirovski est aussi un écrivain d'observation. Mais du début jusqu'à la fin, ce qui frappe, et c'est un peu une banalité de le dire, mais c'est la capacité à... Et surtout le désir fondamental d'insuffler de la vie dans ses romans. C'est aussi une raison pour laquelle elle s'inspire énormément de sa propre vie, de la vie de sa famille. Et c'est quelque chose qui a frappé tous les critiques qui l'ont lu à cette époque, c'est le caractère extrêmement spontané, extrêmement vif, peu intellectuel des romans d'Irène Némirovski qui ont pour principal objet de représenter la vie, de montrer la vie. Une des raisons aussi pour lesquelles elle a été beaucoup attirée par l'écriture scénaristique. Elle a écrit des scénarios pour le cinéma qui n'ont jamais abouti, mais c'était d'ailleurs une grosse déception pour elle. Mais le cinéma est quelque chose pour lequel elle aurait volontiers arrêté la littérature au début des années 30.
Alors, on parlait tout à l'heure du succès de Suite française. Le paradoxe, mais vraiment, paradoxe, enfin, pas paradoxe, mais le caractère inédit de ce succès, inédit dans l'histoire littéraire récente, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à Suite française. Et il a débouché sur une redécouverte de l'œuvre dans quasiment son ensemble. L'œuvre a été rééditée plus complètement, plus pleinement qu'elle ne l'était jusqu'alors. Et, pardonnez ce discours d'épicier ou de libraire, peut-être, les chiffres de vente ne se sont pas démentis depuis lors sur un nombre de titres très, très divers. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, comment vous l'interprétez?
Mais je dois dire que ça a été même une surprise, en fait, hein, pour nous, puisque après Suite française, il y a des romans qui n'avaient pas été réédités depuis les années 30. Il y en a qui ont été découverts, comme Chaleur du sang, son dernier roman achevé en tout cas, et donc ces romans sont parus successivement en 2005, 2006, 2008, etc. Et à chaque fois on en discutait avec Denise Epstein, la fille d'Irène Némirovski, on se disait mais ce roman va-t-il connaître encore le succès? Est-ce que vraiment on ne devrait pas attendre encore quelques temps? Est-ce que les gens vont pas en avoir un petit peu assez quand même qu'on leur sorte tous les deux ans un inédit d'Irène Némirovski, comme si c'était un filon inépuisable. Et d'abord, ça n'était jamais des fonds de tiroir, c'était tous des romans qui présentaient un intérêt véritable, parfois exceptionnel. Et puis à chaque fois, le succès a été au rendez-vous. Moi, c'est ce qui m'a surpris le plus. Et depuis 2004, ça fait donc 10 ans, et ce succès ne semble pas se démentir. Alors, comment l'expliquer ? Moi, je pense qu'on a reconnu qu'Irène Mirovski faisait partie du patrimoine littéraire français, que c'est une œuvre vivante qui va. Et je pense aussi que Denise Epstein n'a pas ménagé sa peine pour rendre cela possible. Elle n'a cessé de se déplacer dans les librairies, dans les écoles, dans les musées, à l'étranger, etc., pour prouver que l'œuvre de sa mère était vivante. Et l'édition de ses œuvres complètes, à la Pochothèque, c'est quelque chose qu'elle voulait absolument voir réaliser avant de disparaître. Donc ça a été pour elle une grande... Alors elle aussi, d'ailleurs, malgré son âge avancé et sa santé qui était déclinante, elle a tenu, j'en étais le premier stupéfait, à relire intégralement les 4000 pages des œuvres de sa mère pour leur parution en Pochothèque, et cela quelques mois avant sa disparition. Donc c'était vraiment c'était l'œuvre de sa vie à elle. Elle avait atteint le double de l'âge d'Irène Némirovski, et elle était devenue, en quelque sorte, elle le disait elle-même, la mère de sa mère, en portant son œuvre dans le monde et en permettant que cette œuvre ne s'éteigne plus jamais, et je crois que ce sera le cas. Je pense qu'Irène Némirovski ne sera plus oubliée.
Je connais d'ailleurs, et on terminera, enfin non, notre question, mais sur ce sujet, on terminera là-dessus. Je connais d'ailleurs nombre de classiques de la littérature française contemporaine d'Irène Némirovski, et devenus des classiques bien avant elle, qui seraient heureux d'avoir les chiffres de vente et donc les lecteurs qu'a aujourd'hui Irène Némirovski, ce qui d'ailleurs ne remet pas en cause leur qualité propre, mais peut-être l'édition française. Mais,
oui, il y en a un à qui ça a failli arriver, et je voudrais citer, c'est Emmanuel Bove.
Oui.
Il y a certains des romans d'Irène Némirovski qu'on peut rapprocher de ceux de Bove. Par exemple, Le pion sur l'échiquier, Le pressentiment, qui sont des romans qui se passent, des romans du déclassement. Et c'est intéressant parce qu'Emmanuel Bove est un auteur qui a été lui aussi redécouvert, relancé dans les années 80-90, et qui était un juif ukrainien aussi, comme Irène Némirovski. C'est très intéressant de lire les deux en parallèle, quoique leurs deux univers soient assez différents.
Il n'était pas juif ukrainien, mais qui lit encore aujourd'hui Martin Dugard, par exemple, qui est pourtant un bel écrivain, mais qui n'est guère plus lu. Non, mais c'est vrai. Dernière question. Quel livre conseilleriez-vous à un jeune homme ou une jeune femme qui n'a jamais lu Irène Némirovski et qui vient de se voir offrir, pour autre chose que pour caler un pied de table, l'édition complète des œuvres complètes d'Irène Némirovski? Par quoi, à votre avis, faudrait-il commencer?
Je pense que la porte d'entrée la plus simple et la plus éclatante, c'est Le Bal. C'est une œuvre très courte. C'est un court roman, c'est une perfection, c'est une mécanique formidable, c'est un roman qui est presque entièrement dialogué. Irène Némirovski avait des dons exceptionnels pour la satire, on ne l'a pas dit, mais ça, il faut le souligner, et pour l'écriture dramatique. Elle a souvent songé à écrire du théâtre, je vous ai parlé des scénarios. Le Bal, c'est d'ailleurs souvent qui a été porté à l'écran, au théâtre, à l'opéra, c'est même devenu un ballet de marionnettes. C'est une œuvre qui est faite pour la scène. Et c'est d'une cruauté, d'une drôlerie et d'une perfection absolument extraordinaire. Là, on voit tout de suite qu'on a affaire à une styliste impeccable, quoi. Donc Le Bal, c'est la meilleure porte d'entrée. Suite française, bon, je pense qu'il est inutile d'y insister encore, mais c'est une œuvre tout à fait unique. Et puis, si je devais en citer une troisième, je la cite volontiers parce que Irène Némirovski, c'est une romancière, c'est une nouvelliste, ça n'est pas une essayiste, mais elle a écrit une biographie. C'est la biographie de Tchekhov, qui est une des œuvres à laquelle elle tenait le plus, qu'elle aurait beaucoup souhaité voir paraître de son vivant, mais qui est parue juste après-guerre, et qui est une biographie qui se lit, qui n'a pas vieilli du tout, qui même d'un point de vue strictement biographique, tient parfaitement la route encore de nos jours face aux biographies plus modernes. Et d'une écriture absolument magnifique. Moi, je conseille toujours la vie de Tchekhov, d'Irène Demirovski. C'est aussi ce que conseillait Denise Epstein.
Olivier Philipponin, merci. Quand vous aurez fini les 4000 pages des œuvres complètes d'Irène Demirovski, vous en reprendrez bien encore un petit peu. La biographie d'Olivier Philipponin et Patrick Lénard est disponible en poche, je crois,
oui,
à dire de bêtises. Je le dis d'autant plus que j'ai eu l'occasion de l'écrire, donc cochon qui s'en dédie. C'est une biographie magistrale, exemplaire, comme l'était d'ailleurs la biographie précédente, je voulais le dire, que Olivier Philipponin et Patrick Lénard avaient consacrée à un autre des grands irréguliers de ce siècle qui nous manque, Roger Stéphane. Voilà, merci beaucoup.
Merci.